Arthur de Gobineau, l'illustre magicien perse. Le derviche Baguer raconta un jour l'histoire suivante sur l'autorité d'Abdi Khan, qui lui-même l'avait apprise de Lutfullah Hindi, lequel la tenait de Rizabey, de Kirvanshah, et ce sont tous gens parfaitement connus et d'une véracité au-dessus de tout soupçon. Il y a peu d'années vivait à Damghan un jeune homme appelé Mirzan Kassen. C'était un excellent musulman. Marié depuis peu, il faisait bon ménage avec sa charmante femme. Il ne buvait ni vin ni eau-de-vie, de sorte que jamais le voisinage n'entendait de bruit du côté où il demeurait. Circonstance, soit dit en passant, qui devrait être plus commune chez des peuples éclairés de la lumière de l'islam, mais Dieu arrange les choses comme il lui plaît. Mirza Kassem n'étalait point de luxe ni de dépenses extravagantes. Il dépensait, d'une façon tout à fait convenable, une rente 6 sur 2 villages et les revenus d'une somme assez forte confiée à des marchands respectables. Il n'exerçait aucune profession et, n'ayant ambition aucune, ne se souciant pas de devenir un grand personnage, il s'était constamment refusé à se faire domestique. Ce n'est pas que son bon caractère connu ne lui eût lu à plusieurs reprises les propositions les plus séduisantes. Ayant ainsi renoncé à devenir premier ministre, et comme il faut pourtant qu'un homme s'occupe, il avait senti s'éveiller en lui une certaine curiosité pour les choses de l'intelligence. Dans sa jeunesse, après avoir quitté l'école, il avait appris de la théologie dans ce beau collège neuf de Kashan, où sous de magnifiques ombrages, il avait écouté les doctes leçons de professeurs qui n'étaient pas sans mérite et recueilli sur ses cahiers assez d'opinions diverses des meilleurs exégètes du Livre Saint. La jurisprudence aussi l'avait un moment attiré, mais pourtant ses connaissances diverses, pour vénérable qu'elle lui parusse, ne parlait pas beaucoup à son imagination. De sorte que, après avoir pris un plaisir modéré à des questions comme celle-ci, l'imam Mehdi existe-t-il dans le monde avec ou sans conscience de lui-même ? Il s'était retiré peu à peu de ses délices de la réflexion, et il menaçait de tomber dans une oisiveté assez morne, quand la fortune le mit en rapport avec un personnage qui exerça sur lui une influence décisive. C'était un soir de Ramadan. Malheureusement, les fidèles observent rarement de façon très exacte le jeûne commandé par la loi dans ce temps consacré. Cependant, il faut aussi l'avouer, il n'est presque personne qui ne tienne à passer pour le faire, et de cette façon, les apparences du moins sont sauvées. De sorte que ce sont précisément les hommes sans conscience qui ont mangé leur pilau tout à l'aise dans un coin à l'heure ordinaire du déjeuner qui, lorsque le soir arrive, sont les plus empressés à se plaindre de la faim qui ne les tourmente pas, de la faiblesse qui ne les envahit guère et à appeler avec les cris les plus suppliants le coucher du soleil. Il faut remercier Dieu et son prophète de ce que ce spectacle édifiant est abondamment fourni dans toutes les villes de l'Iran à l'époque sainte. Un soir donc, à la porte de la ville, Mirza Kassem et une douzaine de ses amis étaient assis sur leurs talons devant l'éventaire d'un marchand de melons et ils attendaient le moment où le disque du soleil, déjà s'approchant de l'extrême bord de l'horizon, allait leur faire le plaisir de disparaître. La moitié au moins de ces réguliers et consciencieux personnages, dont le visage fleuri ne dénonçait pas les austérités, tenait à la main le kaloun bien allumé, n'attendant que l'absorption de l'astre dans le commencement du crépuscule pour fourrer dans leur bouche le bout de tuyau et s'envelopper d'un nuage de fumée. « Descends donc, descends donc !» murmurait d'une voix puanteuse le gros Sholom Ghali, pressant l'instrument chéri à un pouce de ses lèvres. « Descends donc, soleil, fils de chien, et que ton père soit brûlé pour la souffrance que tu nous prolonges. Ô Hassan, ô Hussein, saint imam, je jure que le soleil est déjà disparu depuis une grande heure, s'écria lamentablement Kouli Ali, le drapier. Je ne sais pas quels aveugles nous sommes de ne pas voir qu'il fait nuit. S'il avait fait nuit, comme ce bon musulman l'assurait, il était encore assez grand jour pour s'en apercevoir. Mais son insinuation n'eut pas de succès. Quant à Mirza Kassem, il était patient et ne disait rien. Seulement, il considérait avec assez de complaisance deux œufs durs placés devant lui, quand tout à coup le canon de la citadelle se fit entendre. Il était désormais officiel que le soleil avait disparu. Tous les Kalioun se mirent donc à fumer de compagnie. La boutique de melons, d'œufs durs et de concombres fut à l'instant mise au pillage. Et pendant ce temps, les marchands de thé remplissaient leurs verres de la boisson bouillante. La foule s'en emparait avec emportement. Les verres se vidaient et se remplissaient. On chantait, on criait, on riait, on se poussait, on se bousculait, on s'amusait beaucoup. Alors un grand derviche, maigre comme une pierre, noir comme une taupe, brûlé par mille soleils, vêtu seulement d'un pantalon de coton bleu, la tête nue couverte d'une forêt de cheveux noirs ébouriffés, des yeux flamboyants, l'aspect sauvage, dur et sévère, se trouva à deux pas de Mirza Kassem. Il portait sur l'épaule un bâton de cuivre jaune terminé par un enlacement de serpent. À son côté était suspendue la noix de coco appelée couscoul, particulière à sa confrérie. Cet homme avait une apparence si étrange, même pour un derviche, que les yeux de Mirza Kassem s'attachèrent l'homme volontairement sur lui et ne purent s'en détourner. À son tour, l'étranger considéra celui qui le fixait ainsi. « Le salut soit sur vous, lui dit-il, d'une voix douce et mélodieuse, bien inattendue chez un être pareil. » « Et sur vous le salut, la bénédiction ?» lui répondit poliment Mirza Kassem. « Je suis, poursuivit le derviche, ainsi que votre excellence peut le voir, un misérable pauvre, moins qu'une ombre, dévoué à servir Dieu et les imams. J'arrive dans cette ville, et si vous pouvez me loger cette nuit sur votre terrasse, dans votre écurie, où vous voudrez, je vous en serai reconnaissant. Vous me comblez, répondit Mirza Kassem, par une telle faveur. Daignez suivre votre esclave, il va vous montrer le chemin. Le derviche porta la main à son front en signe d'acquiescement et s'en alla avec son guide. Ils traversèrent ensemble plusieurs rues tortueuses où les chiens du bazar commençaient déjà à se rassembler. On fermait les quelques boutiques restées ouvertes. Des lanternes de couleur brillaient à la porte d'un certain nombre de masures, tandis que les gardes du quartier faisaient la conversation avec les commères occupés à laver leur linge dans le ruisseau courant au milieu de la rue, en ménageant les plus pénibles surprises aux jambes des passants un peu distraits. La marche des deux nouveaux amis ne fut pourtant pas trop longue, car au bout d'un quart d'heure environ, Mirza Kassem fit halte devant une petite porte ogivale entourée d'un mur de pierre. Il souleva le marteau de fer étamé, frappa trois coups, et un nègre esclave ayant ouvert, il introduisit le derviche dans la maison et lui souhaita la bienvenue d'une façon tout à fait cordiale. Il lui fit traverser la petite cour de 10 pieds carrés environ, dallée en grandes briques plates, et au milieu de laquelle était un bassin revêtu de tuiles émaillées du plus beau bleu d'azur, où une eau assez fraîche faisait plaisir à voir. Des rosiers étaient alentour, couverts de leurs incarnates. Après avoir monté quelques marches, le derviche se trouva dans un salon de médiocre grandeur, ouverte en face des rosiers. Les murailles étaient agréablement peintes en rouge et en bleu, avec des ramages d'or et d'argent. Des vases chinois pleins de jacinthe et d'anémone étaient placés dans les encoignures. Un beau tapis kurde couvrait le sol, et des coussins d'indienne blanches à rois rouges couvraient le sofa un peu bas, qu'on nomme « takhté », sur lequel Mirza Kassem invita son hôte à prendre place. Celui-ci fit les difficultés exigées par le savoir-vivre. Il se défendit de tant d'honneur en alléguant son indignité. « Je ne suis, répéta-t-il plusieurs fois avec modestie, qu'un très misérable derviche, un chien, moins que de la poussière sous les yeux de votre excellence. Comment aurais-je l'audace d'abuser à ce point de ses bontés ?» Le derviche parlait ainsi, mais pourtant, il y avait sur toute sa personne un cachet de distinction et pour tout dire de dignité si évidente que l'honnête Mirza Kassem était intimidé et se demandait s'il ne devait pas demander humblement pardon à un tel homme de l'audace qu'il avait eue de l'amener chez lui. En lui-même, il se disait « Mais quel est ce derviche ? Il a l'air d'un roi et plus fait pour commander une armée que pour errer sur les grands chemins. » Cependant, le derviche avait pris place. Le petit esclave nègre apporta le thé, mais le derviche ne voulut boire que la moitié d'un verre d'eau. Le kalioun fut de même présenté, le derviche le refusa, alléguant que ses principes ne lui permettaient pas l'usage de pareilles superfluités, de sorte que Mirza Kassem, qui aurait volontiers tiré quelques bouffées pleines de saveur, se crut obligé de louer le zèle du saint personnage et de renvoyer l'instrument tentateur en affirmant que, pour sa part, il n'avait pas non plus l'habitude de s'en servir. Était-ce vrai? Ne l'était-ce pas? Dieu sait avec exactitude ce qui en est. Amen. Alors le derviche prit la parole et s'exprima ainsi. Votre Excellence digne me combler de beaucoup de faveurs. Je dois lui dire qui je suis. Le royaume de Dercan, dont vous avez certainement entendu parler, est un des plus puissants états de l'Inde. Il m'a vu naître. J'ai été le favori et le ministre du souverain pendant quelques années. C'est assez vous dire qu'aucune des inutilités de la vie ne m'a fait défaut. Je sais, par expérience propre, ce que peut donner d'ennui un nombreux harem. Je connais tous les dégoûts de la richesse. J'ai vu miroiter assez de pierreries pour n'avoir pas eu longtemps la passion d'en contempler. Et quant à la faveur du prince, il n'est pas sur ce sujet une seule observation des philosophes dont je ne sache mieux que la plupart d'entre eux apprécier la vérité et la valeur. Jugez du cas que j'en fais. Je ne m'arrêtai donc pas de longues années dans une situation si fausse, et je me retirai pour me livrer uniquement à l'étude. Le résultat de mes travaux m'a conduit à abandonner encore cette position comme trop gênante et entraînant trop de distractions indignes. Alors j'ai quitté tout. Vivant seul et content désormais de mon couscous et de mon pantalon de coton bleu, je crois pouvoir vous dire une grande vérité que vous ne croirez pas, mais qui cependant n'en est pas moins ce qu'elle est. Ce pauvre diable qui n'a rien et qui est devant vous possède le monde. En prononçant ces paroles, le derviche regarda en face Mirza Kassem et avec une telle expression de majesté et d'autorité que celui-ci en resta tout interdit. Il eut à peine le temps de prononcer les paroles indiquées par la circonstance « Gloire à Dieu, qu'il en soit béni et remercié !»« Non, poursuivit le derviche, et toute sa personne prit de plus en plus un caractère imposant et dominateur. « Non, mon fils, vous ne me croyez pas. La puissance à vos yeux s'annonce par un grand appareil. On ne saurait en être investi, à moins que magnifiquement vêtu de soie, de velours, de cachemire et de gaze brodés d'argent et d'or, on ne s'avance sur un cheval dont le harnachement est semé de perles et d'émeraudes, entouré d'un immense cortège de serviteurs armés dont la turbulence et les airs insolents font connaître la dignité du maître. Vous pensez comme tout le monde sur ce point. Mais vous avez été bon pour moi. Sans me connaître, sans soupçonner d'aucune façon qui je suis, vous m'avez accueilli et traité comme un roi. Je vous en montrerai ma gratitude en vous délivrant d'une fausse manière de penser qui ne doit pas plus longtemps rabaisser l'esprit d'un homme tel que vous. Sachez donc que telle ou telle chose, impossible au commun des hommes, est pour moi simple et d'une exécution facile. Je vais vous en donner une preuve immédiate. Prenez ma main et tenez mes doigts de façon à sentir le battement de l'artère. Qu'en dites-vous ? L'artère, répondit Mirza Kassem un peu étonné, bat aussi régulièrement qu'elle le doit. Attendez, reprit le derviche en inclinant la tête, et d'une voix plus basse, comme s'il concentrait toutes ses facultés sur ce qu'il allait faire, attendez, et le pouls va graduellement cesser de battre. Que dites-vous là ? S'écria Mirza Kassem au comble de la surprise. C'est ce qu'aucun homme ne saurait faire. C'est pourtant ce que je fais, répondit le derviche avec un sourire. Et en effet, le pouls se ralentit degré par degré, puis devint si faible que le doigt de Mirza Kassem avait peine à le retrouver, et enfin cessa absolument. Mirza Kassem resta confondu. « Quand vous le commanderez, dit le derviche, le mouvement renaîtra. Faites-le donc renaître. » Il se passa quelques secondes, et le mouvement tressaillit de nouveau, s'accentua, et peu à peu reprit son ampleur naturelle. Mirza Kassem regardait le derviche, et était partagé entre des sentiments qui tantôt tenaient de l'admiration et tantôt de l'effroi. « Je viens de vous montrer, dit le personnage singulier qui le tenait ainsi sous le charme, ce que je peux sur moi-même. Maintenant, je vais vous montrer ce que je peux sur le monde matériel. Faites apporter un réchaud. » Mirza Kassem donna au petit nègre l'ordre de fournir ce que le derviche souhaitait, et un réchaud rempli jusqu'au bord de charbon bien allumé fut placé devant celui qui allait s'en servir pour la démonstration si curieuse de sa puissance illimitée sur les éléments. La démonstration eut lieu en effet. Le derviche parut se recueillir fortement. Sa bouche se serra à tel point que ses lèvres paraissaient soudées l'une à l'autre. Ses yeux s'enfoncèrent plus encore dans leurs orbites. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Ses joues se tirèrent et, sous le hâle, devinrent livides. Tout à coup, il étendit le bras comme si un ressort était parti et le posa juste au milieu des charbons où il enfonça son poing fermé. Mirza Kassem poussa un cri d'épouvante, mais le thaumaturge sourit et maintint sa main crispée au milieu du feu. Deux ou trois minutes s'écoulèrent. Il retira sa main, la montra à son hôte, et celui-ci vit qu'il n'y avait ni brûlure ni blessure. « Ce n'est pas tout, dit le derviche. Vous savez ce que je peux pour dompter mon corps et faire obéir les éléments à mes caprices les plus contraires à leur nature. Regardez maintenant ce que je peux faire sur les hommes. Je dis sur tous les hommes, je dis sur toute l'humanité. Il prononça ces mots avec une expression si méprisante et qui ressemblait si fort à une invective que Mirza Kassem en fut de plus en plus troublé. Mais le derviche n'y prit pas garde et lui dit: Faites-moi donner un morceau de plomb ou de fer. On apporta une douzaine de balles de fusil. Il les mit sur les charbons et elles commencèrent bientôt à entrer en fusion, d'autant plus qu'il activait le feu avec son souffle. Puis il prit, dans la ceinture de coton noir qui soutenait son pantalon, une petite boîte d'étain où Mirza Kassem aperçut de la poudre rouge. Le derviche en prit une pincée et la jeta sous le plomb. Peu d'instants s'étaient écoulés que, se penchant, il dit d'une voix calme: C'est fait. Et il mit sur le sofa, devant Mirza Kassem, un lingot d'une jaune pâle que celui-ci reconnut immédiatement pour être de l'or. Et voilà, s'écria le derviche d'un air de triomphe, ce que je peux sur les hommes. Est-ce assez? Ai-je besoin de splendeur, de magnificence, de luxe, d'insolence? Et vous, mon fils, apprenez désormais à savoir que la puissance n'est pas dans ce qui s'affiche, mais uniquement dans l'autorité des âmes fortes, ce que le vulgaire ne croit pas. Hélas, mon père, répondit Mirza Kassem d'une voix tremblante d'émotion. Il ne suffit même pas que les âmes soient fortes pour jouir de si sublimes prérogatives. Il faut qu'elles aient su les trouver et les prendre, il faut la science. Et mieux que cela, répliqua le derviche, il faut le renoncement, la macération, la soumission complète du corps à l'esprit et la pureté absolue du cœur. Et ce ne sont pas des mérites qui s'obtiennent sans peine et sans travail. Mais c'en est assez sur ce sujet. Non, 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 s'écria Kassem, en attachant sur son hôte des yeux brûlants de désir. Non. Puisque j'ai le bonheur d'être ainsi à vos pieds, ne me retirez pas si vite vos enseignements. Ne fermez pas la source dont vous m'avez laissé prendre une gorgée. Parlez, mon père, instruisez-moi, enseignez-moi. Je saurai ce qu'il faut faire, je le ferai. Je ne veux plus traîner dans ce monde cette existence inutile et vide qui jusqu'ici a été la mienne. Kassem venait d'être saisi de la plus dangereuse des convoitises, celle de la science. Ses instincts endormis s'éveillaient et ne devaient plus lui laisser un moment de trêve. Le derviche commença alors à lui parler à voix basse. Il lui révéla sans doute des choses bien étranges. La physionomie de l'auditeur était bouleversée. Elle passait à chaque minute par les expressions les plus diverses et subissait les changements les plus brusques. Tantôt, elle exprimait une admiration sans bornes et presque un état extatique. Il lui semblait avoir ses yeux noyés et ce regard perdu vers quelque chose de caché et d'insaisissable, que Kassem allait s'évanouir, maîtrisé par la plus auguste et la plus captivante des révélations. Et tout d'un coup, l'horreur remplaçait la joie. Les traits de Kassem se tiraient, et sa bouche s'entr'ouvrait, ses regards devenaient fixes. Il paraissait apercevoir des abîmes effroyables, se penchant au-dessus, au risque de perdre l'équilibre et de rouler au fond. Toute la nuit se passa à écouter les discours qui produisaient des révolutions si terribles dans son âme et bouleversaient ainsi ses pensées. Enfin, l'aurore blanchit les sommets de la terrasse et le derviche, qu'il avait plusieurs fois engagé en vain à chercher un peu de repos, insista cette fois plus fortement et jura qu'il ne parlerait plus et ne révélerait rien davantage. Kassem était épuisé, haletant. Il obéit. Le derviche resta seul dans le salon et s'étendit sur le sofa, tandis que lui, il s'en alla, soucieux et d'un pas chancelant, à travers les corridors étroits, descendit puis monta quelques marches, et soulevant une portière, entra dans l'androun. Le nègre dormait sur une natte de paille dans la première pièce, où la lueur grise de l'aurore luttait faiblement contre la clarté rougeâtre et lumineuse d'une petite lampe de terre qui teignait encore les objets atteints par elle, tandis que le reste demeurait plongé dans une obscurité presque noire. De là, le jeune homme entra dans la chambre où sa femme dormait paisiblement sur leur vaste lit, qui, recouvert d'immenses étoffes de soie bariolées d'un carnat de vert et de jaune à la façon du tartan écossais, laissait çà et là apparaître le drap d'indienne grise, rehaussé de fleurs de diverses nuances. Les oreillers, en grand nombre, de toutes formes et de toutes grandeurs, les uns triangulaires, les autres carrés, d'autres ronds, s'affaissaient sous la tête de la dormeuse, soutenaient ses bras ou gisaient au hasard. Kassem contempla un moment la jolie aminée et poussa un soupir. Puis il alla s'asseoir, sombre et préoccupé, dans un coin de la chambre, et resta là, sans bouger. Il tenait le lingot d'or fortement serré dans sa main et ne l'avait pas quitté depuis que l'Indien le lui avait remis. De temps en temps, il le regardait, il le contemplait. Il s'enivrait, s'exaltait de cette vue. C'était la preuve matérielle que tout ce qui s'agitait dans sa tête n'était pas un rêve, mais une franche et ferme réalité. Il regardait ce lingot d'or, et ses yeux se fermaient, et tout à coup, dans un demi-assoupissement, il lui semblait que le morceau de métal se gonflait dans la paume de sa main et respirait, que c'était un être animé. Il se réveillait en sursaut, dans un état d'angoisse indescriptible, considérait encore cette merveille dont il était devenu le possesseur, la trouvait immobile comme un morceau de métal doit l'être, et fermant de nouveau ses paupières, sommeillait emporté dans le tourbillon de ses idées. Enfin, la lassitude fut victorieuse de la méditation et Kassem s'endormit profondément. Un baiser sur le front le réveilla, il regarda. Aminé était à genoux à côté de lui, le pressait entre ses bras et lui disait « Es-tu malade, mon âme ? Pourquoi ne t'es-tu pas couché cette nuit ? Oh, saint imam, il est malade. Qu'as-tu, ma vie ? Ne veux-tu pas parler à ton esclave ?» Kassem vit qu'il était grand jour, et rendant à sa femme le baiser qu'il en avait reçu, lui répondit « La bénédiction soit sur toi. Oh non, je ne suis pas malade, grâce à Dieu. »« Grâce à Dieu ? » s'écria Aminé. « Non, je ne suis pas malade. »« Mais qu'as-tu donc fait hier au soir avec ce derviche étranger ? Est-ce que, contrairement à tes habitudes, tu aurais bu de l'eau de vie et mangé des grains de pastèque rôtis pour te donner plus de soif ?»« Dieu m'en préserve !» s'écria Kassem. « Non, rien de semblable n'a eu lieu. Nous avons seulement causé très tard de ces voyages. » « Ah, où est-il, mon hôte ? Il faut que j'aille le rejoindre. » Et en parlant ainsi, Kassem se mit sur ses pieds. Mais Aminen continua. « Le jour est déjà haut depuis longtemps et le soleil n'était pas levé. Quand notre nègre, Boulour, a vu le derviche accroupi dans la cour auprès du bassin, il disait ses prières et accomplissait les ablutions légales. Ensuite, il a fait cuire dans une coupe de cuivre un peu de riz, sur lequel il a jeté une pincée de sel. Il l'a mangé et il est parti. « Comment parti ? » s'écria Kassem, consterné. « Comment parti ? Mais c'est pas possible ! Il avait encore mille choses de la dernière importance à m'apprendre. Il n'est pas possible qu'il soit parti. Il est, cependant, répondit Aminet, un peu étonné de l'agitation de son mari. Mais quelle affaire avais-tu donc avec cet homme ? Cassem ne répondit rien, et d'un air sombre, irrité et concentré, il sortit de la chambre et quitta la maison. Il n'avait pas cessé de tenir le lingot d'or. En droite ligne, il courut au bazar et entra chez un joaillier de sa connaissance. « Le salut soit sur vous, maître Abdurrahman, lui dit-il. « Et sur vous le salut, Mirza, répliqua le négociant. « Faites-moi une faveur, dites-moi ce que vaut ce métal. » Maître Abdurrahman mit ses vastes lunettes sur son nez, considéra le lingot, le passa à l'éprouvette et répondit paisiblement « C'est du bel et bon or, pur de tout alliage, équivaut à peu près une centaine de tomanes. Si vous le désirez, je le pèserai exactement et vous remettrai le prix avec déduction d'un très grand, peut-être tout petit bénéfice. »« Je vous remercie, répondit Cassem, mais pour le moment, rien ne me presse de me séparer de cet objet et j'aurai recours à vous en temps et lieu. » « Quand il vous plaira, » repartit le marchand. Il salua Cassem, qui prit congé et sortit. Il s'en alla à travers les bazars, frôlant les boutiques. Mais les apostrophes enjouées des femmes qui, sous le voile, se permettent tout, on ne le sait que trop, les appels et les compliments de ses connaissances, les avertissements brusques des muletiers et des chameliers pour qu'il eût à faire place à leurs bêtes, qui se succédaient en files interminables, attachées à la queue les unes des autres et chargées de balais dont il fallait craindre le contact pour chacun de ses membres. Tout cela, qui l'amusait l'ordinaire, le fatiguait jusqu'à l'irriter aujourd'hui. Il avait un besoin impérieux d'être seul, livré à ce monde de pensées qui le tyrannisait, et le voulait posséder sans conteste. Il sortit de la ville, ayant atteint dans le désert un endroit où se levait un groupe de grands tombeaux en ruine, il entra sous une des coupoles à moitié effondrée et se mit dans un coin, à l'ombre. Là, s'étant assis, il s'abandonna aux idées dominatrices qui fondaient sur lui comme un essaim d'oiseau de proie. Il existe dans toutes les rues de nos villes de l'Iran des puits. Nos rues sont étroites et le puits est juste au milieu. Jamais on n'a pensé à l'entourer d'un mur comme dans les villes d'Europe, de sorte qu'il s'ouvre à fleur de terre, disposition beaucoup plus commode. Quand, pour une cause ou pour une autre, il se tarit, on ne s'amuse pas à le combler, ce qui prendrait trop de temps et donnerait trop de peine. On le couvre de deux ou trois planches, et avec le temps, la terre s'accumule dessus. Naturellement, les planches pourrissent, des pieds maladroits les font s'effondrer, et partout ailleurs que dans notre pays, un passant, un enfant, un animal quelconque s'abîmerait à chaque instant dans le vide et irait se tuer au fond du trou. Chez nous, c'est rare, parce que le Dieu très bon et très miséricordieux qui nous a dispensé de réfléchir à beaucoup de choses, prend soin de nous épargner les conséquences fâcheuses que pourrait avoir notre confiance en lui. Pourtant, on ne peut jurer que quelqu'un ne disparaisse parfois dans l'abîme. Cassem avait un pareil abîme dans un coin de sa cervelle. Il ne le connaissait pas lui-même. Il venait d'y tomber. Il était au fond. Il s'y agitait et ne devait pas en sortir. D'ailleurs, il n'y songeait en aucune façon. Saisi, serré par ce qui s'était emparé de son imagination, de son intelligence, de son cœur, de son âme, par ce qui en maîtrisait toutes les puissances, il n'avait pas l'idée d'y résister. Et non seulement il se laissait faire, mais il se laissait dévorer avec passion. Bref, une seule idée le possédait, marcher et marcher résolument dans la voie de son révélateur. Que valait le monde au milieu duquel il avait vécu jusqu'alors? Rien, rien absolument. C'était de la fange au physique, de la fange au moral, en un mot, néant. Il voulait s'élever plus haut et planer au-dessus de cet univers, entrer dans le secret des forces qui font tout mouvoir. Et cet univers et bien d'autres plus grands, plus braves, plus augustes. Il savait que la substance première pouvait être trouvée, dominée, transformée. L'Indien le faisait. Il en tenait, lui, Kassem, la preuve matérielle dans la main. Il voulait le faire aussi. Il savait qu'on pouvait saisir, diriger toutes les forces motrices et créatrices, même les plus indomptées, même les plus sublimes. Il voulait ce pouvoir. Il savait qu'on pouvait ne plus mourir. Sans doute aucun être ne meurt, mais il savait qu'on pouvait garder la vie actuelle, sous l'enveloppe actuelle, sans perdre la notion de l'individualité présente. Eh bien, c'était là ce qu'il prétendait atteindre. Alors, dans un moment d'enthousiasme, sans nom, en pensant à ce que lui, Kassem, allait devenir, il s'écria « Et moi, moi, qui suis moi, ai-je donc tant de peine à entrer dans la sphère où désormais je vais agir, que me voilà conservant entre mes doigts ce morceau d'or, absolument comme s'il y avait à mes yeux la valeur que je lui attribuais hier ?» Il le considéra et le jeta avec mépris dans les décombres. Mais rien ne s'acquiert, et c'est là surtout ce qui l'occupait, qu'à un prix disproportionné au mérite de ce qu'on cherche. C'est là ce qu'il venait de méditer, et il ne laissait pas que de trouver la condition bien dure. Mais il ne luttait pas, cependant, contre la passion transformée en devoir, et après avoir déchiré lui-même ses derniers regrets, il se leva, prit le chemin de sa maison, rentra chez lui et parut devant sa femme. Celle-ci se leva pour le recevoir et l'accueillit comme d'ordinaire avec l'enjouement le plus tendre. Mais en voyant l'air sombre et le sourcil froncé de son mari, spectacle auquel elle n'était pas accoutumée, son cœur se serra et la pauvre enfant s'assit en silence à son côté. « Aminel, dit Kassem, tu sais si je t'aime et si jamais affection plus grande a réuni deux âmes. Pour moi, je n'en crois rien. L'affection de mon cœur au vôtre est incomparable. Aussi ce cœur saigne, il va affliger son compagnon. » « Mais qu'as-tu donc? Que veux-tu ? » répondit Aminet, prenant la main qu'on ne lui tendait pas. « Ben, je dis que chaque homme a sa part dans la vie, son kismet. Cette part lui est destinée longtemps avant sa naissance. Elle est toute prête quand il vient au monde, et soit qu'il y consente ou qu'il résiste, il lui faut accepter, l'apprendre et s'en accommoder. » « Il n'y a pas de doute à cela, » repartit Aminet d'un petit air capable. « Mais ta part n'est pas si mauvaise, et tu n'as pas raison en songeant de froncer ainsi les sourcils. Ta part, c'est moi, et tu m'as assuré quelquefois, plus d'une fois, et même souvent, que tu n'en demandais pas d'autre. » Kassem, malgré ses sombres dispositions, ne put s'empêcher de sourire à la gentillesse de la jeune femme. Ce que voyant, celle-ci s'accouda tout à fait sur les genoux de son mari et chercha, bien certainement, par la manière dont elle le regarda, à lui faire perdre la tête. Elle y avait réussi souvent. Pour ce coup, elle échoua. « Aminet, reprit-il, ma part, mon kismet, est de partir aujourd'hui même et de te quitter pour jamais. » « Pour jamais me quitter, partir? Ah, mais je ne veux pas. Ni moi non plus, je ne veux pas. Mais c'est bon qu'ils se mettent, et il n'y a rien à objecter. Le derviche m'a ouvert les yeux. J'ai senti à quoi le ciel m'appelle, il faut que j'aille. Ouh, mon Dieu, Dieu miséricordieux, mais je vais devenir folle. Et la pauvre Aminet se tordit les bras, et deux torrents de larmes jaillirent de ses yeux. Puis elle saisit le bras de Cassem et lui cria « Mais parle donc, où veux-tu aller ?»« Je veux aller rejoindre le derviche. »« Mais où est-il ?»« Il est parti pour le Khorasan. Il va traverser Mesmet, Herat et le pays de Kaboul. Oh, je le retrouverai au plus tard dans les montagnes de Bamiyan. »« Mais quel besoin as-tu de lui ?» J'ai besoin de lui, il a besoin de moi. Aussi bien, je ferais mieux de te dire tout. Tu feras mieux sans doute, oui, dis-moi tout. Oh, mon Dieu, mais je deviens folle. Parle, mon amour, mon enfant, ma vie, parle. Cassem, ému de douleur, de tendresse et de pitié, prit la main d'Aminet et la serra et la garda dans la sienne pendant qu'il raconta ce qui suit. Le derviche peut tout, tout au monde. Il me l'a prouvé cette nuit. Il peut tout, hormis une seule chose, et sans un compagnon, il ne la réalisera jamais. Depuis plusieurs années, il a cherché ce compagnon. Il a parcouru la Perse, l'Arabistan, la Turquie pour le trouver. Il a été le chercher en Égypte et s'est rendu même au-delà, dans le pays du Maghreb. Traversant les terres occupées par ces Ferengis qu'on appelle les Francis. Il n'a partout vu que des gens d'un esprit borné ou d'un cœur irrésolu. La plupart l'écoutaient avec complaisance tant qu'il leur parlait des moyens de faire de l'or, mais quand ils voulaient élever leurs esprits, plus de ressort. Les ailés devenaient froids. Le derviche ne se décourageait pas. Il était certain que l'homme nécessaire à ses vues existait dans le monde. Les opérations du rami, les points jetés combinés sur la table de sable, ne lui avaient fait connaître par des calculs infaillibles. Seulement, il ignorait le lieu où cet ami de son cœur se trouvait. Il allait le chercher dans le Turkestan, quand hier il a traversé la ville, il m'a parlé. Il m'a ouvert son cœur tout entier. Le mien s'est éclairé, c'est de moi qu'il s'agit. Je suis l'élu. Moi seul, je peux résoudre le mystère. Me voilà, je suis prêt, il faut que je parte. Je pars. Mort ou vivant, j'aiderai le derviche à arracher le dernier secret. Cassem avait parlé avec un tel enthousiasme. Ces dernières paroles étaient empreintes d'une conviction, d'une résolution si inébranlable, qu'Aminet baissa la tête. Mais il s'agissait d'un anéantissement de son bonheur. Elle ne resta pas longtemps vaincue, et à son tour elle reprit d'une voix ferme. « Mais moi ?»« Toi, toi, que veux-tu que je te dise ? Je t'aime plus que tout au monde !» Mais ce qu'il faut que je fasse, je ne saurais l'empêcher. Une force plus terrible que tu ne saurais le concevoir m'entraîne malgré l'amour que j'ai pour toi. Il faut que j'obéisse. J'obéis. Tu te retireras chez tes parents. Si je reviens, alors, oh mère, reviendrai-je? Que vais-je devenir? Qui peut le savoir? Dois-je rien désirer autre que ma tâche, enfin, si je reviens? Si tu reviens, seras-tu à moi? Tout entier, répondit Cassem avec un attendrissement et une chaleur qui prouvait bien que l'amour n'avait pas été éteint par la nouvelle passion. Oui, tout entier, pour toujours, je ne songerai qu'à toi, je ne voudrai que toi. Cependant, écoute. Cela est si peu probable que je revienne. Tout est ténèbre dans ce que je fais. Peut-être aurais-tu plus raison. Si tu veux m'en croire, je demanderai le divorce. Tu prendras un autre mari. Tu auras des enfants. Et là, Kassem se mit à pleurer avec une amertume extrême. Aminet, au milieu de sa douleur, ressentit quelques tressaillements de joie et même déjà de l'espérance. Et elle répondit, « Non, 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 je ne consens pas au divorce. Je t'attendrai 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, entends-tu ? Et elle arrivera bien plus tôt, si tu meurs toi-même. Je ne veux pas non plus me retirer chez mes parents. Je les connais, ils croiraient que je suis malheureuse, non de ton absence, mais d'être seule. Ils voudraient me remarier. Oh, j'irai demeurer avec ta sœur, et c'est là qu'il faut venir me rejoindre le plus tôt que tu pourras. » Kassem essuya ses yeux, et ayant embrassé Aminet, laissa reposer sa tête pendant assez longtemps sur le cœur fidèle dont il allait se séparer. Le silence n'était interrompu que par des sanglots et de longs soupirs. Enfin, Aminet demanda à voix basse, « Quand veux-tu partir ?»« Ce soir, » répondit Kassem. « Non, accorde-moi cette nuit encore, tu partiras demain. » Pour moi, je vais aller chez ta sœur, la prévenir. Demain, tu m'aideras à faire tout transporter chez elle, et quand tu m'y verras installé, alors tu me quitteras. Mais je prétends que tu me crois là, afin que, quand tu seras loin, tu puisses regarder dans ta pensée, moi, mes vêtements, ma chambre, et tout ce qui m'entoure. Et elle recommença à pleurer, mais plus doucement. Puis, sentant qu'elle n'avait pas trop de temps à perdre, elle se leva enfin d'auprès de son mari, passa de grands pantalons à pied que les femmes mettent pour sortir, s'enveloppa dans le grand bidar ou manteau de coton bleu qui enveloppe la tête et toute la personne, attacha au moyen de 2 agrafes d'or incrustées de grenats et en forme de colombe, le rouben ou voile de percale épaisse percée à la place des yeux d'un treillis étroit, et ainsi prête, elle serra encore une fois la main de Kassem, plongée dans une sorte de prostration, et sortit. Quand elle fut dans la rue, elle avait le cœur si gros et se sentait si malheureuse, si abandonnée, qu'il s'en fallut peu qu'elle ne se mît à pousser de grands cris pour implorer la pitié des passants. Elle l'eût fait sans doute et chacun l'eût plainte, mais elle changea d'idée en passant devant la mosquée. Elle y entra et dit ses prières. Elle récita avec une volubilité passionnée un bon nombre de rikat et égrena plus de 10 fois son chapelet en répétant avec ferveur les 90 noms du Dieu miséricordieux. Par bonheur, d'autres femmes se trouvaient assises aussi dans le sanctuaire, une entre autres. Celle-ci racontait que son enfant unique, âgé de 3 ans, était à toute extrémité. Ses affligés ensemble et Aminet avec elle se soutenaient réciproquement en priant de tout leur cœur. Après une bonne heure ainsi employée, la jeune femme partit. À la porte, trouvant de pauvres malades rassemblés autour de la fontaine, elle leur distribua de nombreuses aumônes et s'éloigna couverte de bénédictions. Toutes ces formules, « Que le salut soit avec vous, que Dieu vous donne un bonheur parfait, oh, puissiez-vous être comblés de tous les biens, vous et les vôtres, et d'autres semblables, ne laissez pas de résonner mélodieusement aux oreilles de la pauvre souffrante. » Et elle se disait que peut-être Dieu aurait pitié d'elle. Elle rencontra des cavaliers. Ils passaient entourant un personnage grave monté sur un beau cheval. Elle s'approcha humblement et demanda l'aumône. On voyait bien son manteau de la plus fine toile, son roubaine d'une blancheur éclatante et à ses petites pantoufles neuves et de chagrin vert, que ce n'était nullement par besoin qu'elle tendait ainsi la main. Et les guerriers, le vieux seigneur, considérant que c'était pour s'humilier devant Dieu et obtenir quelque grâce, ne manquèrent pas de déposer une petite pièce de monnaie dans la main qui leur était tendue, enveloppée par modestie d'un coin du manteau, et accompagnèrent chacun leur offrande d'un signe de tête bienveillant et d'une formule de propitiation. Aminet, ayant ainsi fait ce qui était en son pouvoir pour se concilier la bonté et l'indulgence divine, se dirigea vers la maison de sa belle-sœur et il y arriva bientôt. Cette belle-sœur n'était pas un caractère ordinaire. Elle mérite la peine d'un portrait. On l'appelait de son nom Zemrud Kamoun, Madame Emeraude. Elle avait 10 ans au moins de plus que Kassem et lui avait servi de mère. Aussi éprouvait-il pour elle une profonde considération, un respect très grand, et le tout mélangé de quelques craintes, sentiment, je dis le dernier, qui était partagé à un degré éminent par Aziz Khan, mari de la dame. À la vérité, Zemrun Kanoum ne faiblissait pas sur les points où elle avait fixé ses convictions. Épousée comme seconde femme par le général son époux, elle avait mis 6 mois à faire renvoyer la première, mais elle avait réussi. Depuis lors, bien qu'Aziz Khan eût plusieurs fois essayé de lui faire comprendre cette vérité palpable qu'un homme de son rang et de sa fortune se faisait tort en n'ayant qu'une seule personne sacrée dans l'enceinte de son Enderoum, c'est-à-dire en ne possédant qu'une seule et unique femme, absolument comme un petit bourgeois, elle n'avait voulu entendre à aucune innovation de ce genre, et la verve avec laquelle elle distribuait des soufflets et même parfois des coups de tuyau de Kalyoun aux servantes et aux domestiques avait donné à réfléchir à Aziz Khan. Il évitait de compromettre sa barbe et sa dignité dans des discussions dont la fin ne lui était pas connue d'avance. Aussi, lorsqu'il avait de l'humeur, se gardait-il de le montrer chez lui. Dans ce cas, il allait se promener au bazar. Ainsi, maîtresse absolue de son terrain, vénérée et crainte, entourée d'un troupeau de 8 enfants, dont l'aîné, un garçon, avait une 15aine d'années à peu près, et faisant marcher tout cela dans un ordre, un silence et une componction louables, Zemrud Kanoun était une excellente femme. Elle était prompte à se fâcher et prompte à s'attendrir. Sa voix devenait dans la colère de beaucoup plus la plus aiguë du quartier, mais il lui arrivait aussi d'en être la plus douce quand elle se prenait à consoler quelqu'un. Elle était généreuse comme un sultan, charitable comme un prophète, et par-dessus le marché, ayant été extrêmement jolie, il lui en restait encore quelque chose à 40 ans sonnés. Elle avait beaucoup d'esprit, faisait les vers d'une manière charmante, et jouait du tar avec une telle perfection que son mari, Aziz Khan, lorsqu'elle daignait jouer pour lui, commençait à dodeliner de la tête pendant un quart d'heure, puis se mettait à murmurer « Excellent, excellent, excellent !» en extase, et finissait par pleurer et se cogner la tête contre la muraille.